Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin.
Parce que Lyon Demain se dessine aujourd'hui, voici l'essentiel de l'actualité. Nous viendrons sur le séisme politique à l'hôtel de ville de Lyon. L'opposition municipale explose après les révélations visant le directeur de campagne de Jean-Michel Aulas, Roman Abreu. On dénombre désormais 3 groupes d'opposition. La CGT appelle à un rassemblement militant ce vendredi midi devant le siège social du groupe SEB à Écully. Nous verrons pourquoi dans cette édition. À Lyon, la justice donne raison sur la forme à des militants anti-pub. Alerte à la cybersécurité sur la région, un véritable coup de massue pour des milliers de familles. L'Académie de Lyon, victime d'un piratage massif. Nous parlerons également du festival des Invites à Villeurbanne, qui débute demain et pour tout le week-end, avec Pauline Diaz, la nouvelle adjointe à la culture.
Lyon Demain, le quart d'heure lyonnais. Toute l'actualité chaque matin, Gérald de Bouchon.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Mais d'abord, la capitale de la résistance ne peut rester associée à une nation qui bafoue le droit international. C'est par ces mots, inscrits dans une lettre ouverte, que le tout nouveau groupe La France Insoumise met la pression sur le maire écologiste Grégory Doucet. Les Insoumis demandent un vote dès ce jeudi 25 juin pour acter la rupture du jumelage avec Beersheba en s'appuyant sur les rapports d'ONG et le mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahou. Une position qui bouscule la majorité locale. Jusqu'ici, Grégory Doucet a toujours refusé de couper les ponts, prônant le maintien du dialogue entre les peuples. L'an dernier, il avait d'ailleurs soutenu son homologue israélien après des frappes iraniennes, tout en annonçant un futur jumelage avec la ville palestinienne de Jéricho. Déjà accusé par la droite de partialité dans le conflit, le maire de Lyon doit désormais composer avec sa gauche, bien décidé à faire bouger les lignes. On reste à la mairie de Lyon, avec un séisme politique cette fois-ci à droite. L'opposition municipale explose après les révélations visant le directeur de campagne de Jean-Michel Aulas, Roman Abreu, visé par une plainte pour viol. En quelques jours, Cœur Lyonnais, le principal groupe d'opposition, a volé en éclats, passant de 27 à seulement 10 élus. Resté fidèle à Jean-Michel Aulas, sur les cendres de cette alliance issue de la société civile, la droite et le centre traditionnel reprennent la main. 12 dissidents lancent le groupe Lyon Ensemble, mené par les maires d'arrondissement, LR, Horizon et Renaissance. Ils deviennent la première force face à Grégory Doucet. Un second groupe, plus centriste, est baptisé Lyon Humaniste et Démocrate. Voit aussi le jour, avec notamment Loïc Terren et François-Xavier Pénicaud. Quant à l'ancien écologiste Alain Giordano, déçu par la gestion de cette crise, il claque la porte pour siéger en non-inscrit. Rappelons que visé par cette plainte, Roman Abreu reste présumé innocent. La CGT appelle à un rassemblement militant ce vendredi midi devant le siège social du groupe SEB à Écully. Au cœur de la colère, la pollution au PFAS, ces fameux polluants éternels. Le syndicat dénonce un climat lourd et une répression de la direction envers ceux qui ont alerté sur les risques sanitaires. Une situation qui rappelle le dossier Arkema, selon la CGT, qui pointe du doigt un chantage à l'emploi. À cela s'ajoute un plan de rupture conventionnelle collective. Les salariés s'inquiètent de voir des emplois, notamment en recherche et développement, délocalisé vers la Chine. Le rendez-vous est fixé à midi vendredi devant le siège de SEB, un rassemblement qui se veut avant tout symbolique et militant, sans appel à la grève. À Lyon, la justice donne raison sur la forme à des militants anti-pub. 4 activistes ont été relaxés hier par le tribunal correctionnel. L'association Rap Résistance à l'agression publicitaire parle de victoire contre la répression. En septembre dernier, 2 hommes et 2 femmes avaient été interpellés en plein cœur du 7e arrondissement. Les faits reprochaient la dégradation de panneaux publicitaires, faisant courir le risque aux activistes d'une peine maximale de 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende pour dégradation en réunion, alors qu'aucun panneau n'avait subi de dégâts, explique l'association RAP. La procureure réclamait 3 mois de prison avec sursis, mais la juge a finalement prononcé la relaxe. En cause, un vice de procédure, le document justifiant la prolongation de leur garde à vue, est arrivé trop tard sur le bureau de l'avocat de la défense. Selon Ombre au tableau, pour les militants, l'un d'eux est condamné à 500 euros d'amende pour avoir donné une fausse identité. Alerte à la cybersécurité dans la région, c'est un véritable coup de massue pour des milliers de familles. L'Académie de Lyon a été victime d'un piratage massif visant l'application Affelnet, le parcours sup des collégiens. Samedi soir, un hacker a revendiqué le vol de près de 170 000 saisies informatiques. Selon les experts en cybersécurité, plus de 60 000 fiches d'élèves de 3e ont été compromises. Nom, prénom, date de naissance, adresse, mais aussi téléphone et mail des parents se retrouvent dans la nature. Par mesure de sécurité, l'application Affelnet a été immédiatement coupé et une plainte sera déposée d'ici la fin de la semaine. En attendant, le rectorat appelle les familles concernées à la plus grande vigilance face aux risques d'arnaque, de phishing et usurpation d'identité. Ne transmettez jamais vos mots de passe.
Lyon Demain, créateur d'envie.
Bonjour Pauline Diaz.
Bonjour Gérald Bouchon.
Pauline Diaz, adjointe à la culture et au droit culturel à Villeurbanne. C'est un poste que vous avez depuis les élections municipales de 2026. Ça veut dire quoi les droits culturels alors ?
Alors, merci de le noter, c'est très important le changement du nom de la délégation. Les droits culturels, on pense souvent que c'est l'accès à la culture pour toutes et tous, mais c'est plus que ça, les droits culturels. C'est un sujet transverse sur toutes les délégations, mais c'est un droit fondamental qui garantit plus que l'accès à la culture, mais aussi l'expression de son identité ou de ses identités culturelles. C'est le droit d'avoir accès à l'éducation artistique et culturelle, le droit d'avoir des références culturelles en commun. Et donc ça va bien plus loin, et la culture, c'est vraiment la culture au sens large. Ce n'est pas que l'art ou la littérature, mais c'est les langues, c'est les valeurs, c'est l'histoire. Histoire commune, donc c'est important de mettre ce sujet en lumière grâce au changement de la délégation et de pouvoir travailler ce sujet-là de manière transverse avec toutes les autres délégations.
C'est votre première expérience en tant qu'élu, qu'est-ce qui vous a fait plonger dans le bain et aujourd'hui comment vous découvrez ce milieu ?
Alors c'est ma première expérience en tant qu'élu. Quand je suis arrivée à Villeurbanne il y a quelques années, j'ai tout de suite eu envie de m'investir sur le terrain, déjà parce que j'admirais beaucoup le travail qui avait été fait à Villeurbanne. Je suis venue habiter à Villeurbanne aussi parce que j'aimais cette dynamique sur tous les projets qui étaient lancés. En rencontrant aussi l'équipe précédente du mandat et de voir cette cohésion, ça m'a donné envie de travailler avec elles et eux. Et j'ai toujours été très engagée quand même sur le terrain, plutôt du côté professionnel ou côté militant en tant que bénévole. Donc c'était aussi un peu une suite logique de continuer à s'engager cette fois pour ma ville.
Alors quand on prend les clés de son bureau, quand on est élu, qu'est-ce qu'on fait ? On parle souvent de cette feuille de route qu'on doit établir, c'est le cas en ce moment-là ?
Oui, alors on découvre beaucoup de choses aussi quand c'est la première fois, mais la première chose c'est déjà d'aller à la rencontre de tous les équipements de la ville, de toutes les structures, des associations, de tous les acteuristes culturels dans mon cas, de rencontrer les équipes aussi, les services techniques de la ville. Je pense que vraiment la première chose c'est d'être à l'écoute de ce qui s'est passé, parce que la connaissance du terrain elle est là, c'est pas moi qui l'ai, moi je suis là pour porter ces projets et donc d'écouter déjà ce que les équipes, ce que les personnes qui ont déjà travaillé sur le sujet ont à dire, et ensuite de travailler tout ça ensemble et de travailler ça avec les autres délégations aussi, parce qu'il va falloir faire des projets en commun, mutualiser certaines ressources aussi. Donc c'est vraiment un travail de groupe. C'est ce qu'on est en train de faire. Tout le monde découvre un petit peu ses projets. Et donc le début de l'été jusqu'à la rentrée pour travailler jusqu'au budget et pour la feuille de route du mandat. Oui.
On ne part pas d'une feuille blanche. Il y a un ADN villeurbanais de la culture. Comment on peut le définir cet ADN ?
Oui, on ne part pas d'une feuille blanche. Il y a beaucoup de choses à continuer. L'ADN de la culture, c'est un peu comme l'ADN des invites. C'est vraiment une culture populaire. Qui soit accessible à toutes et tous dès le plus jeune âge, parce que c'est vraiment un des ancrages aussi de ce mandat, c'est d'amener la culture dès les 1000 premiers jours. Ça fait partie vraiment des priorités de ce mandat. Il y a déjà beaucoup de choses qui ont été faites lors de la capitale française de la culture en 2022, et donc avec le dispositif des mini-mix où c'est des médiatrices aujourd'hui que des femmes, et médiatrices culturelles dans les écoles qui amènent ces projets culturels aux enfants. Donc je pense que vraiment le côté populaire, accessible, c'est la priorité de la culture. Après, il y a le soutien continu aux établissements et aux équipements qui existent. Il y a des nouveaux aussi, des établissements, en tout cas des nouvelles structures, le cinéma, une nouvelle médiathèque, aussi des rénovations à faire. Donc ça, c'est dans la continuité, mais aussi dans la nouveauté. Et puis le soutien à la création, qui est aussi important. Une création libre, comme le Festival des Invites, justement, une création engagée, libre, soutenir autant les grands artistes ou les grands équipements que les plus petites associations, les plus petits groupes qui souhaitent aussi s'exprimer.
Donc des nouveaux rendez-vous, des nouveaux lieux également, parce qu'il y a effectivement les lieux historiques comme le TNP, comme le cinéma Zola, des choses comme ça, mais comment on fait évoluer ce tissu ?
En continuant déjà à prioriser en termes de budget aussi. Je reparle des invites, mais c'est le budget des invites est le même qu'il y a 2 ans, et donc c'est aussi important de prioriser à ce niveau-là, de prioriser en tant que soutien, d'aller de nouveau rencontrer les équipes, de recevoir ces associations, ces équipes, de construire ensemble aussi avec les habitants et les habitantes ces nouvelles infrastructures.
Comment on définit ce festival des invites ? Parce que quand on parle par exemple des nuits de Fourvière, on voit très bien ce que c'est. Hein. C'est essentiellement quand même un lieu. Les invites, c'est beaucoup plus divers dans ce qui sont toutes les pratiques. Comment on le définit ?
Alors, c'est un festival des arts de la rue. Et ça, je pense que c'est vraiment primordial parce que c'est ce qui définit l'ADN de ce qu'on va voir là, pendant 3 jours. Les arts de la rue, ça se passe dans la rue. Et donc, c'est quand quand même déjà casser ces barrières entre les espaces privés, les espaces publics, entre les espaces fermés aussi culturels qui peuvent sembler peu accessibles parfois. C'est aussi se réapproprier la rue qui est parfois moins accueillante pour certaines personnes. C'est un festival de grande envergure. On attend 50 000 personnes quand même. Et on n'a pas beaucoup en France qui sont si grands, même si les invités sont peut-être moins connus que d'autres festivals nationaux. Mais justement, parce qu'il est fait pour les habitantes et les habitants. Il est aussi fait par les habitantes et les habitants qui ont participé à certaines créations en amont, qui vont aussi participer pendant les représentations. Et donc, cet engagement commun, cette fierté aussi commune de ce festival, je pense que c'est sa singularité qui est très importante pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais.
Est-ce qu'il y a un spectacle phare dans la programmation? Je crois qu'il y a notamment ce fameux spectacle qui a été monté avec les ateliers Frappaz. C'est pas nouveau, tous les ans, les ateliers Frappaz sont associés à un spectacle. Comment ça se passe? Il y a une centaine, 200, 300 personnes qui participent, c'est ça?
150, je crois. 150 personnes qui vont participer pendant le spectacle aussi à tenir des mâts. Mais ce spectacle va être grandiose, mais il va en avoir beaucoup, des spectacles grandioses. Et il y a aussi plein de petits spectacles. Mmh. C'est ça qui est intéressant. C'est aussi les différences d'échelle, de pouvoir à un moment partager une expérience commune avec plusieurs milliers de personnes et voir d'autres petits spectacles. On peut le faire même à une personne. Il y a certains spectacles qu'on peut faire, représentations qu'on peut faire seul, d'autres avec jauge limitée, dans des espaces plus petits qui vont être répétés tout le long du week-end. Et donc, c'est vrai que d'avoir ces différences d'échelle, d'expérience, c'est assez chouette. En plus de la diversité des sujets qui vont être abordés, que ce soit autant pour les adultes, pour les plus petits, que ce soit sur des sujets engagés comme le féminisme, les droits LGBTQIA+, la question du handicap, par exemple. Donc, il y a autant des sujets engagés que moins, que c'est des moments de joie, de divertissement qui peuvent plaire à tout le monde. Et le but, c'est aussi de se laisser un peu surprendre. C'est ça aussi l'avantage des arts de la rue. On ne sait pas vraiment ce qu'on va voir. On peut aussi se balader dans la ville et se laisser surprendre par quelque chose qu'on n'aurait pas forcément été allé voir dans une structure fermée.
C'est la culture aussi à la portée de tous. Il n'y a pas besoin d'avoir lu les grands auteurs pour arriver sur un spectacle.
Non, justement. Et qu'est-ce que c'est un grand auteur ou autrice? On peut tous et toutes décider. Donc non, justement, le but, c'est vraiment la création, l'expression de son identité, ses identités culturelles, comme dans les droits culturels, et de pouvoir se retrouver dans une histoire et donc d'être surpris aussi parce qu'on ne pensait pas qu'on trouverait ce genre de spectacle ou qu'on irait voir ce type de spectacle.
C'est gratuit, donc on peut en profiter. Il n'y a pas de recette, évidemment, de billetterie. Ça veut dire que la collectivité assume les 1,2 millions, c'est ça, d'euros du budget. Pourquoi c'était important de maintenir ce budget encore cette année, malgré les coupes qu'on connaît?
Oui, donc tout à fait. C'est 3 jours gratuits pour tout le monde. Alors, pour les Villeurbanaises et les Villeurbanais, mais pour tout le monde aussi. Hein. C'est toute la métropole peut mettre d'ailleurs. Tout le monde est le ou la bienvenue. Oui, c'est une priorité. C'est une volonté politique de maintenir ce festival à la même hauteur pour pouvoir proposer autant de représentations et que cela reste accessible. C'est une priorité politique de soutenir la création artistique de ce festival qui a lieu tous les 2 ans.
Tous les 2 ans. Donc, est-ce qu'il y a d'autres rendez-vous qu'à travers votre nouvelle délégation là, vous souhaitez mettre en place? Il y a déjà des choses qui se profilent ou pas?
Il y a déjà beaucoup de choses qui se passent à Villeurbanne. J'ai commencé mon mandat avec la fête du livre qui était une très belle réussite et on espère déjà continuer tous ces grands rendez-vous. C'est quand même une priorité aussi de cette nouvelle mandature, soutenir ces rendez-vous récurrents et de pouvoir aussi proposer des événements culturels dans tous les quartiers. C'est déjà des choses qui sont faites, mais de continuer à soutenir autant les plus grands événements que les plus petits, qui permettent aussi une cohésion dans son quartier, avec ses voisins, ses voisines. Les nouveaux rendez-vous sont à développer aussi ensemble avec les habitantes et les habitants.
Merci Pauline Diaz, adjointe à la culture et aux droits culturels. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Et puis c'est désormais officiel, Caroline Vert portera les couleurs d'OL Lyon pour les 3 prochaines saisons. À 30 ans, son expérience et son niveau de performance constituent un véritable atout pour des Lyonnaises qui sont toujours en reconquête de la Ligue des Champions. Pour rappel, Caroline Vert est capitaine de l'équipe d'Écosse et elle était jusque-là attaquante au Real Madrid. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr demain pour une prochaine édition. Excellente journée.